On avait commencé une série qui était infiniment plus, et c'est toujours ma quête. Je suis toujours en train de prier, Seigneur, je veux une position de cœur qui me permette de recevoir ce que je ne peux même pas comprendre. Ce que je ne peux pas concevoir, je veux quand même le recevoir. Je ne veux pas être limité. Et j'ai un doute, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il ne faut pas que ça passe par mon intelligence, puisque mon intelligence est limitée. Et je crois que le problème est beaucoup plus relationnel. On avait cité le passage à plusieurs fois, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » On avait parlé le dimanche soir où on a lancé la semaine de prière, c'était ce dimanche de tempête où il n'y a pas eu de réunion le matin, mais on avait touché ce thème-là où saisir une nouvelle réalité, ça demande une nouvelle façon de penser. Et on avait vraiment saisi ça. Ensuite, on a vu que sa provision est plus riche qu'on peut concevoir, que Jésus est tout ce que nous avons besoin, ou plutôt, Jésus est ce que nous avons besoin quand nous pensons ne pas en avoir assez. Tu penses ne pas en avoir assez? Ajoute Jésus. Puis tu brasses. Sa provision est plus riche, comme je disais. Son salut est plus noble. Le salut, ce n'est pas une deuxième chance de se racheter. On a déjà été racheté, mais c'est une occasion de connaître l'amour de notre Père, de découvrir l'intimité de notre Père. On a vu que son amour est plus généreux, qu'il y a des barrières quelquefois qui nous empêchent de recevoir son amour, mais de son côté. La plomberie, elle n'est pas bloquée du côté du ciel. On a besoin de vérifier, et on avait vu cette fameuse paresse cognitive, notre avarice cognitive, notre cerveau qui a tendance à simplifier les choses, catégoriser, et ça nous amène des fois à tirer des conclusions hâtives et de catégoriser les choses. On connaît deux personnes d'une nationalité, « Ah, cette nationalité, ils sont comme ça ». On a réglé le cas de 10 millions de personnes, de 20 millions de personnes sur deux personnes. Et on a cette tendance-là. Malheureusement, ça nous joue des mauvais tours dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on a tendance à interpréter ce que l'on vit comme c'est Dieu. Et j'ai rencontré récemment quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne vois pas la réponse à une prière? Ben, je me dis, Dieu ne voulait pas. OK. Oh là là. Il y a quelque part, et si on mettait ça sous le tapis de... Je ne comprends pas, mais je continue de faire confiance au Seigneur. Sous le tapis de ce qu'on appelle cet aspect-là qu'on ne peut pas comprendre, le mystère. Et ce matin, on veut voir un autre aspect. Et cet aspect-là, ce matin, c'est que notre identité est plus noble que l'on croit. Trop souvent, on commet une erreur sur notre propre identité. L'ennemi nous a menti, puis on a besoin de récupérer l'identité qui nous a été volée. C'est un peu comme dans les films policiers, où, si j'ose dire, malheureusement dans la réalité, si le policier n'est pas vigilant quand il analyse toutes les évidences, il envoie la mauvaise personne en prison. Et ce que nous pensons être notre identité, bien, ça va directement affecter notre niveau d'anticipation dans nos interactions avec Dieu, au point de nous envoyer aussi en prison. De se retrouver dans une prison qui est invisible, et on va regarder une histoire de prison ce matin. Donc, trop souvent, mon anticipation que Dieu a de bonnes choses en réserve pour moi, ben, est directement liée à la perception de ma propre identité en Jésus. Est-ce que je le mérite? Je me souviens d'une occasion, je parlais avec un croyant et avec un frère. Il m'expliquait comment il a commencé à chanter un chant de louange. Et la présence de Dieu est venue et c'était merveilleux. Et là, il était, et vous avez ce qu'il disait, « Ah non, 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 je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le mérite pas. Je n'ai pas droit à ça. » Et à quelque part, c'est malheureusement notre perception de nous-mêmes qui nous empêche de recevoir plus. On va essayer d'avancer dans ce domaine-là. Si je veux être plutôt en mesure de croire que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que je demande ou pense, je dois m'assurer que ma foi est intacte, que ma foi est à la bonne place, que ma foi prospère. Parce qu'Hébreux 11:1 dit, « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire, je crois la réalité de ce que je ne vois pas, mais c'est une réalité qui est là, que je crois comme si c'était présent matériellement devant moi. Et c'est l'assurance que l'infiniment plus existe, même si je ne le vois pas. Même si ma situation présente n'a pas de sens dans ma vie. La foi, c'est l'assurance que Dieu qui vit en dehors du temps, parce qu'il est éternel, ben, il connaît la fin depuis le début. Il connaît la fin depuis le début. Ça, c'est le fun. Alors, je dois lui faire confiance avec JFK ou LMNOP, à quelque part au milieu des situations, parce que Dieu, en réalité, il est A et il est Z. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, il est la fin. Donc, ma foi, c'est l'assurance quand même que, même si je suis au début du film, Dieu a déjà tourné la fin, la finale. Dieu a déjà tourné la scène finale, il la connaît. Amen. Moi, je ne la connais pas, mais il la connaît. Et on a besoin d'avoir cette assurance en lui. Donc, ma foi me permet de me réveiller ce matin, le matin, chaque matin, en sachant que la bonté, la miséricorde vont me suivre tous les jours de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des jours de ma vie. Je suis dans l'une de ces journées-là où Dieu m'a promis cette présence, cette bénédiction, cette bonté, cette miséricorde envers moi. Donc, la bonté et la miséricorde sont comme mes gardes du corps. L'un à gauche, l'un à droite, et puis je peux pas les voir, mais ils sont là invisibles et j'ai cette sécurité qui m'accompagne, que sa bonté m'accompagne, que sa miséricorde m'accompagne. Donc, la miséricorde et la bonté de Dieu deviennent le filtre à travers lequel je vois les combats de ma vie. Sachant que celui qui a commencé ce bon travail-là, il va l'achever. Il est fidèle pour le compléter. Et ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on doit se rappeler. Donc, notre identité est vraiment infiniment plus noble qu'on est capable de l'imaginer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ma foi me donne d'anticiper avec assurance qu'il est capable de faire infiniment plus. Je n'ai pas besoin de lui commander comment faire. J'ai besoin simplement de m'appuyer sur lui, de lui faire confiance. Donc, tu dis probablement, « Oh, wow, j'ai besoin de plus de foi. » Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que Hébreux 11 nous parle de la foi. Tout à l'heure, j'ai cité un passage au début de Hébreux 11, mais le début d'Hébreux 12 nous donne des pistes vraiment importantes. Hébreux 12, les premiers versets 1 et 2, « Rejetons tout fardeau, courons avec persévérance, gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Avez-vous remarqué où il faut regarder? À Jésus. À Dieu. On peut le mettre d'une manière générale à Dieu, à Jésus. Et c'est quand on a les regards fixés sur Dieu qu'on découvre pleinement notre identité. Qui nous sommes et qui il est en réalité. C'est en Dieu qu'on va le découvrir et non à travers nos efforts personnels. L'apôtre Jean a dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. J'aime ça qu'il a ajouté ça. On est non seulement appelés enfants de Dieu, c'est pas simplement qu'on nous a donné un surnom. On nous nomme par ce que nous sommes. Nous le sommes vraiment. Et il continue. Donc, voyez, j'ai regardé dans le grec et voyez vraiment l'idée de percevoir avec les yeux, d'apercevoir par n'importe quel sens, mais aussi de remarquer, de discerner, de découvrir. Donc, lorsqu'il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné », ce n'est pas une banalité. Découvrez pleinement, en vous-même, à travers tous vos sens, à quel point Dieu vous aime. Puis, c'est en regardant la grandeur de son amour qu'on va découvrir qui nous sommes. On va regarder ce matin une histoire avec Jean-Baptiste. On va regarder ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste et remarquer ce qui s'est passé quand il a commencé de douter ou quand il a commencé à douter de l'identité de Jésus. C'est vraiment intéressant. Et voici comment c'est mentionné. Dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » La première partie, c'est vraiment importante. Dans sa prison, Jésus avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Jean était dans une prison, oui, physique, contre son gré. Mais lorsqu'on réalise tout le dilemme dans lequel il est, on s'aperçoit aussi qu'il est dans une deuxième prison, qui, elle, est invisible, qui souvent nous entoure, nous enveloppe sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, Jean avait des attentes concernant Jésus. Et ici, lorsqu'on lit ça, c'est comme s'il se dit, il semble que je me suis trompé sur son identité. En tout cas, il commence à se poser des questions, il regarde ce que Jésus fait et se met à douter. Et waouh, qu'est-ce que Jésus fait? C'est incroyable. Imaginez, vous regardez à ce que Jésus fait, puis vous commencez à douter. Ouais, comment ça? Parce qu'à quelque part, Jean s'était créé une identité de qui allait être le Messie. Et ce qu'il voyait devant lui, c'était complètement décalé, déphasé, comme si c'était complètement confus, désaligné. Ça ne fitait pas avec son idée. Donc, il commence à se poser des questions. Jean n'est pas en train de remettre en question son appel, il n'est pas en train de remettre en question sa foi en Dieu ou quoi que ce soit. Non! Il commence à se poser des questions. Es-tu vraiment celui? Es-tu vraiment celui qui doit venir? Ou bien on doit continuer de persévérer? Quelle question! Et vous savez, pourtant, Jean, c'est celui qui aurait dû le moins douter. Parce que Jean, lui, savait qui il était. Ça ne pouvait pas être plus clair parce que sa naissance était miraculeuse. Sa naissance a été annoncée à son père Zacharie. Donc, avant même qu'il soit né, un ange est venu rencontrer son père Zacharie alors qu'il est au boulot. Et son boulot, c'est de servir le Seigneur dans le temple. Et l'ange lui dit, dans Luc 1,13, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Tous les détails sont là. Même son nom, c'est quelque chose que Dieu lui a dit à son père, c'est le nom que tu vas lui donner. Alors que la famille autour voulait l'appeler selon un des noms des aïeux, il a dit non, Jean. C'est le même qui a retrouvé la voie. Mais Zacharie avait douté en se disant, ouais, donc comment ça pourrait arriver à l'âge que j'ai? Voici ce que l'ange a dit au verset 16, toujours dans Luc 1er chapitre, concernant Jean-Baptiste. Et je suis convaincu que ses parents lui ont ramené ça. Je suis convaincu que Zacharie lui a rappelé ça lorsqu'il lui racontait des histoires, lorsque Jean était en train de grandir jeune enfant. Voici ce que l'ange a dit te concernant. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Il était conscient, il va marcher dans la puissance d'Élie. Et Jean le fait en réalité. Jean a même reconnu, même la première rencontre de Jean et Jésus, c'était avant même qu'il soit né. Ça, c'est rare, hein? Jean a reconnu Jésus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Puis il s'est mis à danser. Et sa mère dit, « Ouh, ça bouge en dedans! » Il a rencontré Jésus avant même qu'il soit né. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 1, chapitre 1, verset 43, où, à cause que Marie, l'ange Gabriel vient lui dire ce qui va arriver, puis il dit en passant, je vais donner des nouvelles de ta sœur Élisabeth, elle est enceinte, elle est au 6e mois. Qu'est-ce que Marie fait? Elle est tellement contente, elle est remplie de foi qu'il soit fait selon ce que ta parole. La première chose qu'elle fait, elle part et elle va visiter Élisabeth. Lorsque Marie entre dans la maison, voici ce qui se passe. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu la salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Donc, vous vous imaginez Jean-Baptiste qui commence à danser dans le ventre de sa mère. Le Messie! Le Messie est venu chez moi! Il est dans le ventre de sa mère et il y a des réactions. Il y a une réaction qui est produite. Jean se met à sauter de joie et vous savez, on a pleinement le droit de se réjouir parce que Jésus est ici ce matin. Jean nous a donné le bel exemple, sauter de joie. Jésus n'est plus dans le ventre de Marie. Vous savez la Marie qu'on raconte à Noël, là? Jésus ne marche plus en Galilée. Il n'est plus sur la croix non plus. Il n'a pas été oublié sur la croix. Donc, lorsqu'on voit cet objet-là et une petite figurine de Jésus clouée dessus, je suis désolé, on passe à côté de ce que Dieu est venu accomplir. Jésus est à la droite de Dieu, mais non seulement ça, il est ici ce matin parce qu'il vit en chacun de nous. Jésus est ici! Woo-hoo! On peut danser, comme Jean-Baptiste le fait. Donc, réalisez-vous, Jean, il y avait tout ce qu'il fallait pour être rempli de foi, d'assurance. Puis au milieu de sa prison, Jean regarde ce que Jésus fait et se met à douter. Même dans Luc chapitre 3, on vient de parler de sa naissance, dans Luc chapitre 3, verset 2, c'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean. Donc, au moment même de son initiation au ministère à temps plein, l'Esprit de Dieu est venu lui parler. La parole de Dieu s'est adressée à lui. Au verset 3, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » et vous connaissez plus ou moins la suite. Donc, il était conscient de son appel, il était conscient de son identité. Et Jean a accompli son ministère, je dirais, avec assurance puis avec détermination. Voici un peu ce que Jean dit, Jean-Baptiste. Puis en passant, pour ceux qui se demandent dans quelle église il devrait faire affaire, Jean le Baptiste a dit, allez à lui, Jésus, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc, il a dit, allez chez les pentecôtistes. Lui, il rebaptise du Saint-Esprit. Donc, quand j'étudiais cette semaine, je me disais, c'est clair, c'est évident. Jean-Baptiste l'a dit clairement, c'est pas moi. Moi, je suis baptiste, mais allez vers lui. OK, désolé, c'est une farce plate. On continue. Je me sens mieux, je l'ai dit. Donc, voici ce que dit Jean. Celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Portez attention, c'est important. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main. Ici, j'ai pris la version Nouvelle Bible Seconde. Parce que lorsqu'on parle du van, certains l'appellent l'appel à vanner. Mais très souvent, ça pouvait ressembler à une fourche qui servait à soulever le blé avec les tiges. Et puis les parties de blé, les envoyer dans les airs. Donc, il pouvait y avoir certaines dents là-dessus. Dans Nouvelle Bible Seconde, on parle de la fourche. Il a la fourche à la main, il nettoiera son air, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, voici comment Jean voit les choses. On voit dans ce texte-là, attention, vous me trouvez peut-être dur, « Attention, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. » Ça sous-entendait quelque chose. Jean a marché dans la puissance d'Élie, avec autorité, on le voit. Et vous savez, imaginez, à l'Assemblée du plein Évangile, on vous disait, « Bienvenue, race de vipères, à l'Assemblée du plein Évangile. » Vous direz, « Écoute, change ton langage. » Il appelait certaines personnes, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Wouh! « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. » Oh là là, j'imagine si Jean avait une église, l'enseigne qui serait dessus soit « Le péché mène à la mort, repentez-vous », je ne sais pas en tout cas. Mais en tout cas, si Jean vivait à notre époque, puis qu'il avait ses comptes Twitter, Facebook, Instagram, je suis certain qu'on lui aurait fermé ses comptes. Pour propos violents, probablement. Mais Jean était populaire, il attirait les foules, il attirait des gens à lui. Jean se tenait debout pour la vérité, sans compromis. Et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison, à cause de cette tenue-là, si je peux dire. Il s'attendait à ce que le ministère de Jésus soit plus puissant que le sien, probablement pour condamner le péché. La fourche de la vengeance, le nettoyage, le feu, on va brûler au feu, oh! Et c'était peut-être ce qu'il avait retenu. Mais quand il regarde le ministère de Jésus, ce n'est pas ce qu'il voit. Où est la fourche? Où est la vengeance? Où est le nettoyage, le feu? Et ce n'est pas ce qu'il remarque. Alors, il se dit, est-ce que j'ai commis une erreur sur la personne? Est-ce que j'ai commis une erreur d'identité? Vous savez, c'est très dangereux d'avoir des attentes envers Dieu, d'avoir une attente envers Dieu qui n'est pas conforme à son caractère. C'est là qu'on se met dans les problèmes. Laissez-moi juste vous raconter une petite anecdote que j'ai entendue cette semaine d'un frère. Ça fait longtemps et ça n'implique pas personne d'ici. Si jamais, malheureusement, vous avez vécu ce genre d'expérience, je suis juste désolé pour vous. Et un jour, il descendait en bas de chez lui et en passant devant la porte de l'appartement, il entend le fameux bip, bip, de temps en temps, du détecteur de fumée quand la pile est trop faible. Donc, il entend ça, il cogne à la porte, pas de réponse, et puis le temps passe. Un mois plus tard, il passe devant la porte et il l'entend encore. Il dit, « Ah, écoute, on va régler ça. » Il cogne à la porte et finalement, l'homme lui ouvre la porte et il dit, « Tu sais, ton détecteur de fumée, là, la pile, non, 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 parle-moi pas de ça. Je suis plus capable de dormir, ça me cogne dans la tête. Oh, l'ennemi est contre moi, là, je suis en train de prier puis jeûner pour pouvoir en avoir le dessus. » Et là, wow! Donc, le frère lui dit, « Me permets-tu juste de rentrer? » OK. « Me permets-tu, je vais juste enlever la pile. » Et il enlève la pile, puis il s'en va. Une semaine plus tard, ce locataire-là le croise et dit, « Écoute, vraiment, pardon, je m'étais trompé. » Il avait juste à changer la pile. Il n'y avait aucun démon. Il n'y avait pas besoin de jeûner et prier pendant un mois. Lorsqu'on fait une erreur d'identité, on se retrouve souvent dans des problèmes comme ça. Lorsqu'on a une erreur de perception. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, écoute, permets-moi de la partager, c'est trop évident. Malheureusement, il faut comprendre, comprenez, pour ceux qui vivent au Québec depuis longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps on a les détecteurs de fumée, 30 ans? Vous souvenez-vous, la première fois que vous avez entendu un bip-bip, que ça a attiré votre attention? Vous ne saviez pas plus. C'est quoi ça? Pourquoi ça fait bip-bip? Et à un moment donné, on a appris que, ah ok, c'est l'indicateur de changer la pile parce qu'elle est faible. Et à quelque part, Jean a une idée sur ce que doit être le ministère de Jésus et ce qu'il regarde l'amène à douter. Et il envoie des gens vers Jésus pour dire, es-tu celui qui doit venir ou bien on doit en attendre un autre? Vous savez, à cause de la domination des Romains, les gens s'attendaient à un Messie comme Moïse ou un militaire conquérant qui allait les délivrer de la domination. C'était ce qui était premièrement dans l'esprit des gens. Il y en a qui ont voulu faire Jésus roi, et ainsi de suite, et plusieurs voyants, et beaucoup sont passés à côté de la compréhension de qui était Jésus, parce qu'ils attendaient un grand militaire qui allait conquérir, qui allait lever une armée et qui allait renverser le pouvoir qui était dominateur sur eux. Et Jean aussi avait des attentes qui étaient différentes de ce que Jésus accomplissait. On le voit par cette parole, « Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. » En voulant dire, « Watch out, attends que papa arrive, ça va chauffer. » Les mamans, des fois, on dit ça, « Attends que ton père arrive à la maison. » Pour ceux qui sont d'un certain âge, on a souvent entendu ça. J'espère que vous l'entendez, les plus jeunes ne l'entendent plus ou les plus jeunes parents n'utilisent plus simplement la menace. J'espère. Il y a d'autres moyens, beaucoup plus en ligne avec le cœur de Dieu pour grandir et voir des gens se développer, voir nos enfants se développer. Et en passant, on a un cours sur être parent qui s'en vient en mars, qui est vraiment important, un cours qu'on veut vraiment aligner sur le cœur de Dieu. On veut vraiment saisir comment être parent selon le cœur de Dieu. Donc ici, Jean regarde à Jésus, puis il le regarde, puis il observe, puis il dit, « Eh, où la fourche? Eh, où la colère? » Il est où le feu? Il est où le grand nettoyage qu'il va faire, qu'il va se débarrasser des pécheurs? Il ne voit rien de ça. Jean entend parler quoi? De guérison, de délivrance, de bénédiction, de résurrection. Ouh! Il est déçu. Il ne comprend pas. Jean n'était pas en prison pour avoir vendu de la drogue. Il était en prison parce que tenu tête à un roi méchant qui s'appelait Hérode. Il était en prison parce qu'il a eu le courage de dire ce qu'on s'attendait de lui parce qu'il était prophète. Il était venu pour parler de la part de Dieu. Et là, il commence à douter. Vous savez une chose? Ça nous arrive à tous quand on se trompe d'identité. Qu'est-ce qui se passe? On commence à douter. Comme Jean. Peut-être que Dieu n'est pas celui que je pensais. Et habituellement, on garde ça bien, bien secret parce qu'on a trop peur que Dieu nous zappe avec un éclair si on le déclare hautement. On se dit... Peut-être que Dieu n'est pas celui que je pensais. Peut-être que je me suis trompé. Qui suis-je pour qu'il me bénisse comme ça? Qui suis-je pour qu'il m'aime d'un amour infini? Non. À quelque part, et on commence à douter. On ne le dit pas à haute voix, on ne veut pas être zappé. Puis Jean a fait la même chose, il a envoyé deux personnes. Allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou bien on attend un autre? Regardez ce que Jésus répond. Jean avait une idée du ministère Jésus, peut-être basée sur son ministère. Et Jésus, voici ce qu'il leur dit. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Allez rapporter à Jean la réalité de ce qui se passe, autrement dit. Pas une impression, une perception, des on-dit. Allez lui dire ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Wow! Ça vous rappelle quel passage, ça, en passant? Luc, chapitre 4. Le Saint-Esprit est sur moi et m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et ainsi de suite. Littéralement, il reprend les paroles de Luc, chapitre 4, verset 18. Que le Saint-Esprit est sur lui lorsque son premier discours, sa première prédication. À la synagogue, il déroule le livre et il cite cette parole-là d'Ésaïe. Mais avez-vous remarqué une chose? Il y a une chose en moins qu'il ne dit pas pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Ah, ça, il ne mentionne pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, comparez, vous allez voir. Donc, Jésus, c'est ce qu'il dit à Jean. Où est la fourche? Où est la vengeance? Où est le nettoyage? Où est le feu? On ne voit rien de ces choses-là. Et il continue en disant, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que notre manière de voir Jésus ou de nous voir soi-même représente un obstacle? Ici, Jésus apporte une vérité vraiment importante. Il cite, voyez, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez ou ce que les gens expérimentent à travers mon ministère. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Vous savez, souvent on prêche qu'on a été pardonné de nos péchés, qu'on a été libéré de la peine du péché. Mais si notre péché a été enraciné tout au long de notre vie dans des habitudes, dans des schémas de pensée, dans certaines dépendances, oui, Dieu veut nous conduire dans une liberté complète, mais il a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre collaboration. Il veut vous guérir, il veut vous restaurer, il veut changer votre manière de penser, de réagir, de vivre. Mais Jésus dit, on le voit dans l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Ça semble une invitation à l'inviter et à être proactif pour que Dieu vienne restaurer notre cœur, nous restaurer. Et à quelque part, on a besoin de collaborer avec Dieu pour qu'on puisse entrer pleinement dans notre identité, si je peux le dire de cette manière-là. Est-ce qu'on vit emprisonné dans une fausse identité par rapport à ce qu'on est devenu en Jésus-Christ? Est-ce que vous peignez les murs de votre cellule avec un sourire, mais à l'intérieur, vous vivez derrière des barreaux invisibles? Invitez Jésus à souper avec vous. Il attend votre invitation. À quelque part, la balle est dans notre camp, constamment. Dieu ne va jamais nous forcer parce qu'il nous aime. Le vrai amour exige la liberté. Le vrai amour exige la liberté. Le vrai amour, c'est d'être prêt aussi à souffrir. Et on voit que Jésus a souffert pour nous. Dieu a été prêt à permettre que son Fils soit sacrifié, son Fils unique, pour nous. Il a été prêt à souffrir, mais non seulement ça, Dieu veut nous laisser libres. Laissez-moi vous parler d'une expérience intéressante qui a été faite. Il y a une expérience intéressante, et puis on va regarder une vidéo dans juste quelques secondes. La compagnie Dove a voulu faire de la publicité d'une manière différente envers les femmes, sur l'aspect de l'estime de soi, et ainsi de suite. Et une des approches qu'ils ont eues, ils ont demandé à des femmes de décrire. La dame était cachée derrière un rideau. Vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Et ils ont pris un portraitiste judiciaire formé par le FBI, Jill Zamora, qui a travaillé 15-16 ans pour le FBI. Un portraitiste judiciaire, donc, on lui décrit et lui fait un dessin. Seulement en entendant. Donc, il fait un dessin à partir de ses oreilles. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça va produire si on prend des femmes que lui ne verra pas, il est là dans un coin, la dame arrive, elle s'installe derrière un rideau, il lui pose des questions sur son visage, ainsi de suite, parce qu'il dessine le visage. Comme c'est un portraitiste judiciaire, on dessine toujours les visages sans sourire, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir identifier. Donc, un visage neutre. C'est ce qu'on va remarquer. Ce n'est pas qu'il veut dessiner une personne dans ses meilleurs atouts. Il veut dessiner une personne dans la plus grande justesse de ce qu'il entend. Ensuite, cette dame-là, ils l'ont fait avec plusieurs femmes. Ensuite, ils ont dit à cette femme-là, « OK, on aimerait que tu fasses connaissance avec un tel, un tel, un tel. » Donc, ils ont pris un groupe de gens. Ils ont dit, en attendant, va jaser avec telle, telle personne, sans leur dire pourquoi. Plus tard, le portraitiste fait venir une de ces personnes-là qui s'assoit et ils avaient donné à cette personne-là d'observer puis de poser des questions. Donc, cette personne-là qui vient de faire connaissance avec l'autre personne, il lui dit, OK, décris-moi cette personne. Comment sont ses yeux? Comment est son visage? Etc. Et il fait un deuxième dessin à partir de cette personne-là qui vient de la rencontrer. Et ensuite, on les met côte à côte et chacune de ces personnes-là, on leur présente leur dessin, on leur dit, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, ils ont fait l'expérience. Donc, un étranger choisi au hasard décrivait la même femme, et puis Jill, lui, la redessinait selon leur description, et ils ont mis ça ensemble. Voulez-vous, on va l'écouter juste? C'est très inspirant, c'est très instructif. Allons-y.
I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011.
I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board.
We couldn't see them, they couldn't see us.
Tell me about your hair.
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
Tell me about your chin.
It kind of protrudes a little bit, especially when I smile.
Your jaw?
My mom told me I had a big jaw.
What would be your most prominent feature?
Kind of have a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten.
I would say I have a pretty big forehead.
Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe.
Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face.
She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin.
She had nice eyes. They lit up when she spoke.
Cute nose.
She had blue eyes, very nice blue eyes.
So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you.
So yeah, that's...
She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy.
Mm-hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness.
Do you think you're more beautiful than you say?
En Jésus-Christ, êtes-vous plus beau que vous pensez? Le résultat, c'était des portraits diamétralement opposés. Le portrait réalisé à partir de la description de l'étranger était plus beau, plus heureux, plus conforme à la réalité. Et ce qu'ils ont mentionné, c'est que la preuve de ce que nous soupçonnons était faite, vous êtes plus belle que vous ne le croyez. Et là, on peut s'adresser aux femmes. Et on pourra aussi l'appliquer. J'aimerais juste reprendre la citation d'une des dames. Littéralement, ce qu'elle était en train de dire, c'est « La perception que j'ai de moi a un impact sur le choix de mes amis, les emplois que j'occupe, ma façon de traiter mes enfants. Elle se répercute sur tout. Rien ne peut être plus déterminant pour notre bonheur. » J'aimerais juste vous dire ce que ce portraitiste retient. De l'aventure, Jill. Lui, ce qu'il retient, il dit, ce que je retiens, ce sont les réactions émotives des femmes. Ils nous en ont montré juste quelques-unes, mais ils en ont fait plusieurs. Et ils ont, à partir de tout ça, fait un montage court. Je vous ai montré la version courte de 3 minutes. Il y a une version longue de 6 minutes. Si ça vous intéresse, sur, je dirais, le fil YouTube au niveau Dove, la chaîne YouTube Dove, ou bien sûr le site de cette compagnie-là, Dove. Je ne vais pas faire de publicité nécessairement, mais... Il y a d'autres vidéos, ils ont fait différentes expériences. Celle-là est assez particulière. Et Jill dit, ce que je retiens, ce sont la réaction ou les réactions émotives devant les deux esquisses montées l'une à côté de l'autre. En parlant des femmes, il dit, elles ont compris qu'elles avaient une perception déformée d'elles-mêmes qui affectait leur vie de manière significative. Et Dove a fait un autre sondage qui est aussi intéressant. Ils ont interrogé des femmes sur la rue et leur ont posé 2 questions. La liste des choses que vous n'aimez pas dans votre corps est-elle plus longue que les choses que vous aimez? C'était la question de départ, on fait un sondage là-dessus. Mais en posant juste 2 questions, Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le moins? C'était la première question. Ils ont posé ça à plein de femmes. Et une deuxième question qu'ils ont posée, quelle est la plus belle partie de votre corps? Et c'est vraiment intéressant, vous irez voir la vidéo. Parce que pour la première question, au quart de tour, il y a une réponse qui sort. Tout le monde. Et pour la deuxième version, laissez-moi réfléchir. Pour la deuxième question, la majorité n'ont pas pu répondre. Maintenant, si on transpose ça, transposons ça maintenant avec notre relation avec Dieu, qu'est-ce que ça produit? Dans ma relation avec Dieu, ma perception de mon identité en Jésus-Christ, eh bien, aura un impact sur toute mon expérience avec Dieu. La perception de mon identité va affecter ma paix, ma joie, ma confiance en Dieu, ma capacité à vivre victorieux, à anticiper de bonnes choses et à saisir ses promesses, ou à anticiper qu'il veut faire infiniment plus que ce que je peux même oser penser. Notre perception de Dieu peut nous mettre en prison, peut nous rendre libres. Déjà, dès l'Ancien Testament, j'aimerais vous lire un passage. Ésaïe 40, verset 27, c'est un passage que j'aime et qu'on peut s'appliquer à nous aujourd'hui. « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? » Mets ton nom. « Pourquoi dis-tu? Pourquoi affirmes-tu? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Seigneur, je te prie depuis. Puis tu fais rien, puis tu veux pas. Seigneur, je t'ai demandé, puis tu veux pas. Quelquefois parce que notre perception est tordue, erronée. Dans ce passage, pourquoi dis-tu, pourquoi affirmes-tu, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Deux versets plus loin, voici ce qu'il est en réalité, voici ce qu'Ésaïe dit concernant Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Tu crois être à bout? Tu as le droit à la multiplication. C'est ce que ça dit. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. On s'excuse, on est meilleur que vous si on marche par l'Esprit de Dieu. C'est ce que ça dit. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, pourquoi dis-tu, ma situation échappe à Dieu? Mon droit passe inaperçu. Dès l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Lorsqu'on marche dans une fausse identité, on croit que Dieu est simplement le juge, à ce moment-là, on va voir uniquement les endroits où Dieu reprend son peuple et on va passer à côté le fait clair, évident que Dieu veut transmettre son amour, que Dieu veut bénir et qu'il dit à son peuple, « Je veux vous bénir. » « Revenez à moi », ainsi de suite. Continuons. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui est vraiment particulier que j'aime bien. 2 Corinthiens. On parle d'identité. Paul apporte quelque chose, une notion qui est vraiment, pour certains, elle peut paraître étrange. Il dit « Ainsi ». Et là, il y a un contexte, ça, on va lire tout à l'heure. « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. » Dans la version « Passion », à partir de maintenant, nous avons une nouvelle perspective qui refuse d'évaluer les gens simplement en fonction de leur apparence extérieure. Dans la New Living Translation, on la traduirait ainsi, nous avons donc cessé d'évaluer les autres d'un point de vue humain. Pourquoi? Le contexte, on le retrouve dans les versets précédents. On est dans le verset 16. Dans le verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Mais s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui qui est mort est ressuscité pour eux. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire, on est tous morts en Jésus. On peut tous s'identifier dans la mort de Jésus, et c'est la raison pour laquelle on est ressuscité en nouveauté de vie. Et pour bien comprendre ce passage-là, je vous avais parlé de ces fameux chapitres de Romains. Romains 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le test? Vous l'avez lu à plusieurs reprises en ligne. Oui, je vois des mains qui se lèvent. Super. C'est important parce que c'est tellement important ce qui se dit. Je vais juste vous lire quelques passages dans Romains. Je crois que c'est ce que j'ai pris, c'est dans Romains 5. Déjà, les premiers versets de Romains 5, je crois. Je n'ai pas mis la référence. Je vous lis. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. On a droit à marcher dans la gloire de Dieu, c'est notre héritage. Et ça continue. En effet, alors que nous étions sans force, c'est pas tes efforts. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterions-nous de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Et ça continue. Laissez-moi juste ne pas passer tout droit. Je vais juste avancer doucement. Voilà. Je vais juste lire le reste. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, réalisez-vous, on se foutait de Dieu et à ce moment-là, Dieu le faisait pour nous. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Ça nous aide à comprendre ce fameux passage-là tout à l'heure. Désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et l'apôtre Paul continue avec ce fameux passage qui m'a pris des années à accepter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et là, je me regardais avec mes habitudes, mes dépendances ou qu'importe, mes réactions, puis je me disais, ça ne ressemble pas à une nouvelle création. Seigneur, tu t'es trompé. Ça ne vous a jamais arrivé de penser comme ça? Ça m'a pris des années, honnêtement, à être capable de comprendre ce passage-là. Parce que je n'avais pas réalisé que Dieu ne me voit pas comme moi, je me vois. À travers Jésus, à travers l'œuvre que Christ a accomplie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, Colossiens 1:13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Dans ces fameux chapitres de Romains 5 à 8, à quelque part, lorsqu'on arrive au chapitre 7 et qu'on les lit vraiment ensuite, on s'aperçoit tout à coup qu'au chapitre 7, il utilise une norme de la société. Quand un mari meurt, sa femme n'est plus liée à lui. Mais savez-vous, vous êtes mort en Christ. Vous êtes plus lié à la loi et au péché. Vous êtes mort et c'est la raison pour laquelle Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est là que dans le chapitre 7, Paul explique que sous la loi, sans vivre par l'esprit, ben je fais ce que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas ce que je veux faire. Alors, si vous pensez qu'en tant que chrétien, c'est ce que vous faites, vous avez fait une erreur d'identité sur vous-même. Et ça vous conduit en prison. Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce qui en arrache, qui travaille dur pour être à la hauteur des attentes de Dieu. On passe complètement à côté de l'identité que Dieu nous a acquise. Tout cela vient de Dieu. Ton identité ne proviendra pas de tes efforts. As-tu travaillé terriblement fort jusqu'à maintenant pour te bâtir une réputation devant Dieu? Je dois lui montrer que je suis un bon disciple. Je dois lui prouver à quel point je l'aime. Je dois gagner sa faveur en accomplissant quelque chose qui a de la valeur, quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose qui va attirer les yeux de Dieu. Ça me fait penser à ce qu'on appelait la famille aux 18 enfants. Je ne sais plus c'était quoi le surnom. On avait permis à une famille missionnaire de venir se baigner dans la piscine des guest house qu'on avait à San Pedro. Et on les entendait venir de loin. Et vous savez, la phrase que j'entendais le plus, c'était des anglophones. « Look at me, mommy, 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 look at me. Regarde-moi, maman, regarde-moi, maman, regarde-moi. » Et des fois, on dirait que notre vie chrétienne ressemble à ça. « Hey, papa Dieu, regarde-moi comment je suis bon, regarde, j'ai jeûné, j'ai prié. » Ça ressemble à ça. « Papa, regarde-moi. » Ou bien avez-vous tenté d'en faire plus pour vous sentir bien, puis à la hauteur de ses attentes? Ça nous est tous arrivé un jour et un autre, et on a besoin de vraiment saisir cette identité-là ou avoir cette révélation. Regardez comment Dieu voit ça, lui. Galates 4, versets 4 à 7. Je vais inviter déjà le groupe de musique à s'avancer parce que j'aimerais qu'on puisse prendre, rechanter le dernier chant qu'on avait chanté ce matin. Je vais inviter donc le groupe de musique à s'avancer tout de suite. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif ou d'enfant adopté. Et parce que vous êtes ses fils, ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alléluia. Parce que vous êtes ses fils. Alors, si vous croyez que vous êtes encore un pécheur qui doit faire beaucoup d'efforts pour marcher dans la sainteté, je dois me sanctifier, je ne veux pas être zappé par Dieu, je ne vais pas passer tout droit, je ne vais pas me retrouver en enfer, et que vous vivez dans cette crainte qu'à quelque part, vous devez être à la hauteur, c'est que vous n'avez peut-être pas encore saisi l'identité dans laquelle Christ vous a amené, dans laquelle il vous a établi, et vous a rétabli à travers ce qu'il a accompli. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Dieu a désiré, a décidé de venir habiter en vous. Il a décidé de faire sa demeure en vous et d'être dans une relation de Père et Fils. Et il termine en disant, « Ainsi, tu n'es plus esclave. » On pourrait prendre un autre mot moins grave. « Tu n'es plus serviteur. » Il y en a qui aiment être serviteur. « Tu n'es plus esclave, tu n'es plus serviteur, mais fils, fille. » Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier, héritière de Dieu par Christ. L'héritage des saints. Wow! Jésus avait dit tout à l'heure à Jean-Baptiste, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Heureux celui qui saisit ce que j'ai pleinement accompli à sa faveur et ce qu'il est à mes yeux. » Comment, peut-être c'est une question que tu te poses, Gaétan, comment est-ce que je peux grandir dans mon identité? Comment est-ce que je peux grandir dans mon identité? Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on grandit dans son identité? Ramenons-le dans une norme terrestre. Ramenons-le à notre niveau terrestre, des relations ensemble. Si tu veux savoir que ton père t'aime, tu ne vas pas aller à la bibliothèque emprunter des livres sur la paternité pour essayer de comprendre l'amour paternel. Ce n'est pas comme ça que tu vas savoir si ton père t'aime ou non. Ce n'est pas en allant étudier le sujet d'une manière intellectuelle. Ce n'est pas plus de connaissances qui va te permettre. Quoique la Bible nous révèle beaucoup de choses et on a besoin de cette connaissance, de savoir ce que Dieu pense de nous. Mais de lire la parole sans être accompagné du Saint-Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs comme un père aimant, la Bible devient un livre générique, un livre religieux, un livre de beaux dogmes, un livre de fables, un livre qui est neutre. Et on a besoin de l'auteur de ce livre-là pour parler à notre cœur en même temps qu'on lit ces paroles-là. Donc, si tu veux savoir que ton père t'aime, tu n'iras pas emprunter un livre à la bibliothèque pour essayer d'étudier la paternité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vers ton père dans une relation intime avec lui. Tu vas t'approcher de ton père. Et si tu as le courage, tu vas oser lui dire, « Papa, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, papa? » Avez-vous déjà posé la question avec Dieu? À Dieu plutôt, Dieu veut répondre. Dans Romains 8, 15, on lit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». Encore une fois, le même terme que Paul reprend. Un terme qui était offensant pour les religieux. Parce que Paul, ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit « Abba, Père », quelles sont les petites expressions d'amour que vous avez avec votre père? Mon petit papy chéri, mon papy doux. Ariane, comment tu appelles ton père quand tu veux lui montrer que tu l'aimes ou quand tu veux avoir une faveur? Donc, vous avez... Aidez-moi. Donnez-moi des suggestions. Pardon? Oui, mais des fois, il y a des mots. C'est le ton. Papa! Papa! le ton, exactement. Et à quelque part, ce que Paul utilise ici, c'est un terme qui n'est pas du tout religieux, qui n'était pas dans la, il était même pas dans le vocabulaire des pharisiens, des chefs religieux, pas du tout. Il fait rentrer dans cette notion-là, dans l'Église, un terme qui est dans l'intimité seulement qu'on entend. Un enfant envers son père. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'en terminant, on puisse prendre un moment. Certains d'entre vous, vous êtes en prison, dans la prison d'une fausse identité que vous avez endossée. Et Jésus vous rappelle, ouvrez-lui la porte pour revêtir l'identité dans laquelle il vous a établi. Pour grandir dans mon identité autrement, ce ne sera pas à travers une recherche intellectuelle. Ce ne sera pas à travers plus de connaissances. Ça va être à travers une relation. Dieu est relationnel. Et ça nous amène toujours à cette même idée qu'on avait lue dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il y a une autre chose intéressante, il continue. Le vainqueur, je vais le faire asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Hé, hey, wow! Jésus dit qu'il veut nous asseoir avec lui sur son trône. Aïe, 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 y aura-t-il de la place pour tout le monde? Des fois, c'est ce qu'on peut penser. Heureusement que Dieu est Dieu et qu'on est juste humain. Mettez de côté votre compréhension intellectuelle, c'est le cœur de Dieu. Jésus vous appelle, ouvrez-lui la porte pour revêtir cette identité-là. Jésus nous appelle ce matin. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant « Non plus esclave de la peur » et qu'on puisse réfléchir à ces paroles. Et j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Pas envers moi, pas envers votre voisin, envers Dieu. Parlez-lui. C'est dans cette relation-là que vous allez grandir en assurance, que vous allez réaliser que Dieu ne vous surveille pas à chaque recoin pour voir s'il doit donner un coup de baguette sur votre tête parce que vous avez désobéi. Si vous êtes dans cette compréhension de Dieu, chantez-le doublement plus fort. Seigneur, je veux réellement saisir ton cœur. Je veux saisir qui tu es. Mais à travers cela, je veux saisir qui je suis, à travers le regard que tu as sur moi. Posez-lui la question, Seigneur, comment tu me vois? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et si vous entendez autre chose que oui, je t'aime, vraiment, c'est encore une réponse peut-être que tu as préenregistrée parce que tu le crois dans ta fausse identité, kick-la out. Tu la chasses parce qu'elle vient certainement pas de Dieu. Chantons, j'ai vraiment assez parlé. On va prendre un moment dans sa présence ce matin. On grandit dans notre identité à travers cette relation. Jésus veut souper avec toi. Il attend ton invitation. Ce verset-là s'adressait à l'Église et non à des non-croyants. Ce verset s'adresse à nous, croyants. Depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce verset-là s'adresse à nous. Jésus te dit, j'attends ton invitation, je veux avoir une relation intime avec toi. Je veux t'établir pleinement dans ton identité. Alléluia. Allons-y. Mm-hmm.